Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous, merci d'être ici présent. Donc je suis Caroline Delétoile, artiste peintre, et je vais vous partager rapidement ma démarche d'abord, et puis vous proposer une perspective sur les résidences que j'ai réalisées en laboratoire quantique au laboratoire Castelbrussel, donc ici au Collège de France, à Sorbonne Université et à l'ENS, et également au Canada, au Quantum Matter Institute de l'Université de British Columbia. Je vais m'attarder en fait en particulier sur les parallèles que je fais entre la pratique artistique et scientifique, et notamment en fait la question du merveilleux, qui est une forme d'image d'épinal à premier abord intuitive, et au final ce qui m'a plus intéressée dans mes résidences, c'était ce qui touchait au quotidien et au vivant dans le laboratoire, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc pour revenir sur mon parcours, donc j'ai commencé par étudier les mathématiques et la physique. J'ai fait après du management, et puis pendant 8 ans, j'ai travaillé dans le conseil en organisation auprès d'acteurs industriels. Et j'ai eu un cheminement parallèle avec une pratique de la peinture qui a été grandissante au fil des années, et des événements, certains événements pivots, dont celui-ci dont je vais vous parler, qui m'ont amené à changer de cap et à sous-tendre une partie de ma démarche aujourd'hui. Avec un coup de fil que j'ai reçu en 2019, un matin, où j'apprenais que la maison de famille avait été vidée la veille et que tout était parti à la benne à ordures. Et quand on se réveille comme ça et qu'on n'a plus de souvenirs, tout est parti, on se pose la question, enfin moi c'est ce qui m'a un peu travaillé, la question de ce qui reste quand tout est parti, et je suis venue à tirer progressivement un fil autour de la trace, des souvenirs et un travail avec des archives. Et donc sur mes champs de travail, j'ai donc la peinture avec une qui est étant peintre pour le coup vraiment au cœur de mon travail, avec une vraie recherche de la couleur qui est revendiquée et assumée, et un travail autour du souvenir, des narrations, du vrai, du faux, et des sujets scientifiques que je vais développer, enfin au contact de chercheurs de plus en plus, donc notamment ici avec ce projet quantique, mais aussi sur d'autres questions comme la mémoire coloniale ou encore plus récemment la forêt. Donc voilà quelques matériaux que je vais utiliser. Donc j'aime bien les archives, ce qui va partir à la poubelle, des vieux livres usés que je vais utiliser comme matière, également des photos de tombes, voilà, enfin des choses que j'aime bien utiliser. Et vous voyez en haut à droite également des systèmes de mesure de comptage de consommation de café au laboratoire du Collège de France. Voilà. Dans mes outils, donc j'ai un travail de peintre avec je travaille avec la matière, donc je travaille avec de l'huile, des presses de gravure, des monotypes, de la photographie aussi, de la sérigraphie, tout un ensemble de techniques que je vais aimer apprendre et travailler pour travailler l'image. Et plus récemment, je me suis mise également à la tablette graphique et à l'ordinateur dans le cadre de ce projet quantique, comme quoi la quantique me modernise. Voilà. Je vais vous partager également en clôture deux inspirations qui guident aussi un peu ma démarche, avec une première de Susan Sontag, qui a dit dans son célèbre essai Contre l'interprétation, paru en 1966, l'interprétation est la revanche de l'intellectuel sur l'art. Et ce qu'elle dit en disant ça, c'est qu'elle vient se poser en quelque sorte en porte-à-faux, en tout cas critiquer une herméneutique qui viendrait envahir la pratique artistique et son interprétation et sa critique, pour remettre le sens, la sensorialité, et elle parle d'érotisme même de l'art au cœur du sujet, de la pratique, et remettre donc la sensorialité, l'esthésie et même, disons, les gros mots, l'esthétique dans la pratique et le ressenti artistique, et notamment dans la peinture. Un deuxième qui a bien connu ses murs, ou que ses murs ont bien connu, Pierre Bourdieu, qui a consacré sa dernière leçon en 2000 à Manet et à, donc à, au déjeuner sur l'herbe qu'il a qualifié de révolution symbolique et dans lequel il dit notamment « C'est parce que les sujets ne savent pas à proprement parler ce qu'ils font que ce qu'ils font a plus de sens qu'ils ne le savent. » Et ce qu'il vient dire ici, c'est qu'il vient finalement remettre en question l'intention de départ dans la création artistique, et il vient dire que finalement, on a une espèce d'intuition et de vague idée qu'après on va confronter à la pratique, et c'est ce cheminement qui finalement vient, et vient créer œuvre, et une œuvre qui fait plus de sens que ce qu'on avait prévu tout le long de la création. Et pour Manet, en l'occurrence, par exemple, il va dire, voilà, Manet, il avait cette idée de faire, il s'est dit, voilà, je vais faire une toile comme ça qui va être grande, une toile de genre, normalement c'est petit, il va y avoir une femme nue, il va y avoir de la perspective coupée, il va y avoir, je vais faire poser des amis, mais mes amis ils posent habillés, et c'est cette succession comme ça de sujets pratiques qui avancent, qui finalement à la fin donne cette peinture qui va créer phénomène et révolution symbolique qui va dépasser Manet lui-même. Et donc maintenant je vous propose d'entrer dans le laboratoire quantique. Le laboratoire quantique, donc la première image qu'on va avoir et que j'avais aussi de prime abord, c'est cette espèce d'univers merveilleux qui va toucher à la navette spatiale, ce monde étrange, où on a ici d'ailleurs à gauche le Collège de France et puis à droite une vue de Vancouver d'une des machines qu'ils ont. Et cet émerveillement de ce monde qui va avoir des lumières chatoyantes, un espèce de mystère de la nature, et puis également les chercheurs qui au quotidien vont finalement être émerveillés par exemple par le fait que l'expérience va démontrer à plusieurs décimales après la virgule une prévision théorique, en tout cas en physique quantique. Mais si ça, c'est ce qui va mettre entre guillemets, je pense, en tension et qui va tenir éveillé, en tout cas, qui va garder le goût de, enfin, peut-être mettre en tension dans le travail et la recherche, comme on l'aurait dans la peinture, où par exemple, il y a certains moments où je vais poser une couleur sur la toile et je vais avoir une espèce d'inflexion de la matière et je vais avoir l'impression de toucher au merveilleux, et ces moments comme ça qui vont m'émerveiller où j'ai l'impression de toucher à une forme de magie, ça c'est une fraction finalement de tout le travail, et finalement le travail ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire un atelier, et c'est ce qu'on retrouve dans les laboratoires quantiques, et je pense dans les laboratoires en fait de façon plus générale scientifique, qui s'apparente à un atelier finalement d'artiste. Donc c'est ça que j'ai, cette piste que j'ai tirée pendant mes résidences, et je me suis notamment intéressée au brouillon de laboratoire, ces vestiges d'une pensée vivante, c'est-à-dire la personne qui s'est dit « je vais écrire ma pensée sans nécessairement réfléchir à ce qu'elle soit intelligente », et elle va se traduire sur le papier, et après elle a vocation à partir à la poubelle, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et donc ces papiers, je les ai pris, je les ai encollés, marouflés, ça veut dire que je les ai mis avec un apprêt vinylique pour les mettre sur une toile de lin, qu'après je suis venue enduire et peindre, et j'en ai fait un sorte de journal de bord de ma résidence. Et on a ici donc à droite une pièce qui est la seule que je n'ai pas touchée, qui est d'ailleurs présentée dans l'exposition ici, qui est donc un brouillon de chercheur ou de chercheuse, où on a donc une première partie où on a arrêté la séquence, fermé la vanne des atomes, donc on a un protocole de manipulation, d'expérience, et puis on a le chercheur ou la chercheuse qui a eu un problème avec son stylo rouge et qui a essayé de le faire fonctionner. Donc on se retrouve avec du chauffe, 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 petit stylo, ça y est, tu es chaud, ah non, tu n'es pas chaud, etc., et gribouillis. Et après, on change de stylo, on passe sur du bleu, et là, on fait des équations, on fait du calcul, et on retrouve la théorie. Et donc, on avait finalement dans ce brouillon à la fois l'expérimental, la vie qui rentre comme ça dans le chemin, et puis les maths, et on a cette espèce de quadrature de la recherche quantique. Donc, c'est la seule que je n'ai pas travaillée, enfin, sur laquelle je ne suis pas intervenue, en tout cas. Après, un autre exemple. Donc, on a ici une mathématicienne quantique qui travaille donc sur les qubits qui m'a partagé sa to-do list de la semaine où elle a donc posé après pour moi. Et donc, on a des choses assez finalement classiques, faire les slides du tuto 5, envoyer un message à Samine. Enfin, on est sur du quotidien très, très, très banal. Et on a également, plus bas, Torino, lâcher prise, laisser les autres le faire. Donc on a également ces pensées qu'on se dit tous, en tout cas que parfois je me dis, qui me traversent l'esprit. Et également d'autres us et coutumes folklore des laboratoires de physique quantique avec des systèmes de mesure de comptage de café qui sont, que j'ai vus. Là, on a trois systèmes qui sont dans trois laboratoires différents, qui ne se sont pas concertés sur la question, mais qui, à chaque fois, mesurent comme ça leur consommation de café au café près. Voilà. Et donc, je vous propose maintenant de faire un peu peut-être de réflexivité, de voir l'expérience de l'expérience et d'approcher comme ça une démarche de construction d'une pièce qui est d'ailleurs montrée en ce moment à NEMO, à la Biennale des Arts du Numérique au 104 à Paris, en partenariat avec l'exposition ICI. Et donc, nous avons une installation qui est une mise en abîme de la manipulation de piégeage d'atomes et d'observation des atomes qui est menée ici même au Collège de France, sur lequel travaille nuit et jour Aurore Young, ici présente. Au point de départ, il y a une analogie, mais ça commence d'abord par une espèce d'intuition, en fait. Céline et moi, on se rend au Musée Niépce de la photographie, avec qui on collaborait sur cette exposition. Et je tombe sur cet album d'une inconnue qui s'est prise comme ça en photo sous toutes les coutures pendant un peu moins de 10 ans. Il y a 150 photos d'elle comme ça. Et ça n'a aucun lien avec le projet, mais je me dis, elle m'intéresse, elle me touche, je sais pas, elle me parle. Et je verrai bien un atome, je la verrai bien en atome. Voilà. C'est quelque chose d'assez obscur qui me traverse. Mais de là à arriver à ce qu'elle incarne, ce qui est à droite, il y a un petit pas qui se concrétise concrètement par des travaux avec des recherches avec Céline qui apporte le volant philosophique. On réfléchit comment on peut apporter un peu de méta dans tout ça, et avec Aurore qui est la maître de cette expérience, et on vient finalement à cette étrangeté qu'elle porte comme ça, à se prendre en photo et à toutes les coutures. Et donc elle nous apparaît à chaque fois un peu pareille, un peu différente et un peu étrange, et on se dit ce serait bien qu'elle puisse clignoter, s'allumer sur un écran quadrillé qui serait une métaphore finalement de cette expérience. Donc ça c'est, on va dire, l'idée de départ. Et donc après, on rentre dans la première phase qui est mon travail, qui est la peinture. Et donc toute cette partie-là, elle a d'abord une première partie où je dois prendre toutes les photos qui sont en noir et blanc, les rogner, les agrandir, les sélectionner, les trier, et puis après en sélectionner 16. Et ces 16 photos, après les peindre avec Photoshop, que j'apprends à maîtriser sur ce type d'outil. Au début avec une souris manuelle, après ça devient trop compliqué, donc j'apprends à me servir d'une tablette graphique. Et j'ai des problèmes avec mon ordinateur qui ne comprend pas bien ce qui se passe. Là, c'est l'écran qui commence à clignoter en fait, et à montrer plus que la moitié, par exemple. Donc il y a tous ces problèmes qui rentrent dans la pratique et qui finalement jalonnent toute cette création de peinture. Et puis après, on a se dire comment on va créer des structures, parce qu'on a cette super idée, et puis après, on ne sait pas trop comment faire. Donc, on travaille on a un scénographe, Kevin Le Bouvier, avec qui on discute là-dessus. On se dit qu'on pourrait créer une structure, et puis, à force d'échanger, il vient au laboratoire, on revoit tout ça, et puis on part sur une espèce de structure avec, là on a la dame qui sourit, et qui va reprendre finalement les barres en acier qu'on retrouve dans les laboratoires, en effet bricolage, et donc on commence à faire ça. Après il faut trouver un fournisseur qui fasse ça, donc là on se dit, mince, comment on va trouver un fournisseur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a les structures, mais il y a aussi des sous-structures qui amènent de nouveaux problèmes à résoudre. Là, j'enchaîne une succession de problèmes qui rentrent dans la création, sachant que je n'en montre qu'une partie, même si Il y en a quelques-unes. Et donc là, ici, on choisit finalement des cadres. Ces cadres noirs, donc on fait une analyse comparative des meilleurs magasins d'ameublement de Paris. Après, je me rends donc dans un de ces magasins au centre de Paris. Il me faut 16 cadres, il n'y en a que 14. Donc ça veut dire que je dois me retrouver dans un autre magasin d'ameublement périurbain, cette fois-ci, pour aller récupérer les deux cadres restants. Et puis j'en prends un en plus au cas où il y en a un qui est cassé, ce qui est le cas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la partie structure. Et puis après, on rentre dans l'électronique, qui est une autre partie qu'on a un peu mise sous le coude pendant assez longtemps, de se dire comment on va faire fonctionner ça. Donc au début, moi, j'ai cette espèce d'image où je me dis, je verrais bien, comme ça, des portraits avec des ampoules, parce que voilà, Boltanski n'est jamais très loin, on se dit ça a l'air pas mal. Et puis voilà, on pense à des guirlandes de Noël, après on se dit ça va pas du tout. Et puis après on continue, et puis on arrive sur des plaques LED finalement. Donc ces plaques LED, il faut les commander, qu'on commande, et qui malheureusement n'arrivent pas à temps. Elles sont bloquées entre l'Allemagne et la France pendant une semaine. Et donc ces plaques arrivent à une semaine de l'ouverture de l'exposition avec un paramétrage que doit faire Aurore Young, parce que on n'a toujours pas trouvé de solution pour créer un système qui puisse faire juste un clignotement aléatoire, ce qui paraît assez simple mais en fait se trouve être plus compliqué que prévu, ce qui nous a amené à aller dans un magasin d'électronique qui nous avait été recommandé à côté du Panthéon, à parler avec les personnes sur place qui nous ont expliqué qu'ils ne savaient pas trop comment faire, nous conseillant après d'aller voir un grand magasin de bricolage urbain sur lequel nous sommes allés également, qui ne savait pas, qui nous a recommandé d'aller voir Google, ce qui nous a amené après sur des forums assez obscurs à commander des plaques Arduino et des alimentations électriques. Et puis nous retrouver avec ça et devoir aller donc entre les 900 mètres du lieu d'exposition et le Collège de France, Aurore et moi, à tenir comme ça des cartons avec des câbles pour ne surtout pas faire se débrancher les câbles qui fonctionnaient au Collège de France et qu'il fallait faire arriver à l'exposition. Voilà. Et ça, c'est toutes ces étapes qui finalement nous amènent à la fin à un allumage qui, alléluia, fonctionne exactement à 5 heures de l'ouverture. Et c'est le moment où la pièce est finie et finalement, on a un moment assez éphémère et fugace finalement de satisfaction. Et puis après, finalement, la pièce est finie, l'œuvre ne m'appartient plus et vient le temps en fait de la réception au public et c'est une autre histoire. Merci pour votre attention.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurore Young et je suis doctorante en physique quantique au laboratoire Kassler-Brossel, ici au Collège de France. J'étais également la commissaire scientifique de l'exposition Sensations quantiques, dont Céline et Caroline ont parlé. Un des objectifs affichés de cette exposition, comme Caroline l'a si bien décrit, c'était de parler des objets du quotidien des chercheurs en physique quantique. Donc, par exemple, vous avez ici un miroir, plusieurs miroirs qui sont montés sur une table optique ou un oscilloscope. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre type d'objet qu'on manipule au quotidien quand on fait de la recherche en physique quantique. Et ces objets, ce sont des objets mathématiques. Alors, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà le formalisme de la physique quantique, parce que je vais vraiment reprendre au début. Mais en tout cas, c'est un formalisme dont je veux parler, parce que pour moi, ce sont des formules qui sont très élégantes, très simples, même si elles sont contre-intuitives, et qui sont à la fois très concrets dans la vie de laboratoire. Donc ce que vous avez ici, A plus B, c'est l'état quantique d'une particule. On va le disséquer ensemble. Donc par exemple, une particule, un photon, un électron ou un atome, cet état quantique va représenter ce que je peux observer en laboratoire. Par exemple, la position. Est-ce que je vais trouver ma particule en A ou en B ? Ou son état d'énergie ? Est-ce que je vais, si je mesure l'énergie de cette particule, est-ce que je vais la trouver dans un état d'énergie bas, dans un niveau d'énergie bas, au repos, ou est-ce que je vais la trouver dans un état d'énergie excité ? Donc je vais labeller ces différents résultats de mesure possibles par des lettres A, B. Et je vais rajouter des barres autour de ces étiquettes quand je parle d'un état quantique pour pouvoir les différencier. Donc la particule peut être à la fois dans l'état d'énergie au repos, l'état A, ou dans un état d'énergie excité, l'état B. Et ce que la physique quantique va me dire, c'est que je peux mesurer donc un état A ou un état B, mais je peux aussi mesurer l'état A plus B. Donc la physique quantique me dit que l'état quantique d'une particule A plus B existe aussi. Et donc c'est quelque chose que je trouve très élégant parce que c'est très simple. On a des objets qui obéissent à des règles mathématiques aussi simples que l'addition. Et en même temps, c'est très contre-intuitif. Parce que là, ce dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas une particule qui est en A ou en B, mais une particule qui est dans A et B. Donc c'est une particule qui peut être à la fois au repos et excitée. Donc c'est... Et même si c'est contre-intuitif, c'est quelque chose de très concret. Parce qu'on a des preuves directes de ces états quantiques en laboratoire. Alors, des preuves directes. Quand on fait une observation, on ne va jamais voir une superposition d'états. Si je mesure l'énergie de ma particule, je vais soit mesurer qu'elle est au repos, soit excitée, mais mon détecteur ne va jamais m'indiquer les deux valeurs à la fois. Pourquoi ? Parce que quand je force ma particule, mon atome par exemple, à interagir avec mon système de mesure, je vais détruire cette superposition. Et donc ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est reconstruire cet état mathématique, cet objet mathématique. Et pour ça, je vais donc préparer plusieurs fois un atome dans une superposition d'état A plus B. Et je vais faire des mesures de son énergie. Je vais trouver une fois A, une fois B, une fois A, une autre fois A. À partir de ces résultats de mesure, je vais calculer les probabilités que j'ai de mesurer une énergie au repos ou l'énergie d'un état excité. Et à partir de ces probabilités, je peux complètement reconstruire cet objet mathématique. À partir des probabilités, je peux associer un poids à chaque état quantique que j'ai appelé CA pour l'état A et CB pour l'état B. Et donc vous allez peut-être me dire, bon, elle nous parle toujours de mathématiques, ça reste quelque chose de très très abstrait, mais en fait non, c'est un objet mathématique avec lequel on est capable d'interagir en laboratoire. Donc par exemple, dans l'expérience sur laquelle je travaille au laboratoire Cassel-Bruxelles, on peut piéger des atomes uniques et on peut les observer. On peut créer des configurations géométriques aléatoires. Donc vous avez un exemple à gauche et à droite, c'est une image qui est directement tirée de l'expérience sur laquelle je travaille ici même. Donc on a décidé de réarranger pour s'amuser les atomes pour former la lettre psi, par exemple. Alors si je regarde un seul de ces atomes, qui peut être dans un état d'énergie A ou un état d'énergie B, je peux interagir directement avec l'objet mathématique, avec son état quantique. Et donc comment je vais faire pour ça ? Je vais utiliser de la lumière. Je peux éclairer mon atome avec de la lumière qui va venir d'un laser. Et si la lumière est bien choisie, je peux modifier l'objet mathématique, l'état de mon atome. Je peux, s'il démarre de l'état A, je peux le faire progresser, le faire évoluer vers l'état B. Et si je continue de l'éclairer, il va retomber dans l'état A. Donc ça dépend de la durée avec laquelle je vais éclairer mon atome. Donc il va osciller entre l'état A, l'état B. Et si je m'arrête entre les deux, entre l'état A et l'état B, je peux créer une superposition. Je peux mettre l'atome dans une superposition d'état d'énergie. Et donc c'est cette interaction avec ces objets mathématiques que moi je trouve élégante et belle. Et c'est ce qui me motive en partie à faire une thèse en physique quantique. Alors cette notion de beauté mathématique dont j'essaye de vous parler, elle était chère à d'autres physiciens. Donc par exemple Paul Dirac, qui est représenté sur la fresque que Caroline a réalisée pour le Collège de France. Et Paul Dirac était il a travaillé sur les fondements de la physique quantique dans les années 20. Et il a, par exemple, travaillé à unifier la relativité restreinte et l'équation de Schrödinger, qui était une équation de la physique quantique. Et ce faisant, il a posé une équation qu'on appelle l'équation de Dirac, dont les solutions mathématiques expliquent le comportement des électrons. Et ces solutions mathématiques décrivent aussi le spin de l'électron. Donc on a une écriture mathématique, une preuve mathématique de l'existence de ce degré de liberté. Et dans cette équation, il se trouve qu'il y avait des solutions qui avaient le même spin, la même masse que l'électron, mais une énergie négative. Et Paul Dirac a proposé d'interpréter ces solutions mathématiques comme une nouvelle particule, l'anti-électron. Et donc il a prédit mathématiquement l'existence de l'antimatière. Et ces antiparticules ont été observées quelques années plus tard. Et il a eu le prix Nobel en 1933. Et donc cette notion de beauté mathématique était chère à Dirac, parce qu'on peut le voir dans un article qu'il a écrit où il dit que le chercheur, dans ses efforts d'exprimer les lois de la nature sous forme mathématique, doit aspirer principalement à les rendre belles mathématiquement. Et il raconte que c'est ce qui l'a guidé dans sa recherche de cette équation. Alors on a des exemples où des artistes s'emparent de cette beauté mathématique, par exemple Man Ray, un surréaliste qui a trouvé des objets mathématiques à l'Institut Poincaré, les a pris en photo et a décidé d'en faire une série de peintures qu'il a appelé les équations shakespeariennes. On a un autre exemple de collaboration entre artistes et mathématiciens dans l'exposition Mathématique, un dépaysement soudain, qui a eu lieu à la Fondation Cartier en 2011. Et cette exposition mettait en relation des artistes et des mathématiciens tels que Cédric Villani, par exemple. Et elle propose de montrer cette splendeur mathématique. Vous pouvez aller voir des vidéos, des extraits d'interviews des participants à cette exposition sur YouTube. Moi-même, je l'ai trouvé en faisant des recherches pour ce colloque. Et donc nous avons suivi une démarche semblable avec Céline et Caroline pour le projet Sensation Quantique. Et notre but était d'essayer de donner à ressentir cette démarche du chercheur en physique quantique qui reconstruit les objets mathématiques. Et donc pour ça, on s'est basé sur une analogie avec le souvenir, où nous invitions le visiteur à parcourir une série de peintures faites par Caroline de l'Étoile qui représentaient un souvenir, un dîner de famille. Et donc dans cette analogie, chaque peinture représente un résultat de mesure. Et le visiteur va reconstruire le souvenir à la fin en rassemblant toutes ces peintures. Et donc, nous avons développé cette analogie dans cette exposition, tout en documentant la vie de laboratoire, qui n'est parfois pas aussi élégante ni aussi propre que les objets mathématiques qu'on manipule. Ce sont des photos qui ont été prises au LKB, ici même au Collège de France, et on voit tout un tas de câbles qui descendent enchevêtrés dans la pièce. Alors, pour conclure, j'aimerais bien citer Jean-Michel Raymond, qui est un physicien émérite de mon laboratoire et qui était là lorsque j'ai passé mon entretien pour faire ma thèse au Collège de France. Il savait que je venais du privé et il m'a prévenu que je ne serais pas aussi bien payée en tant que doctorante que je l'étais avant, ce à quoi je lui dis que je ne fais pas ça pour l'argent. Et il me répond « Non, effectivement, on fait ça pour la beauté de l'art ». Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.